Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur Gérard Longuembo.
Vous êtes ministre des droits humains pour, disons, suivre de près, scruter de près le rapport publié par les Nations Unies. Alors, d'entrée de jeu, ce rapport est-il un soulagement pour vous? Annonce-t-il la fin de relations versatiles entre le gouvernement congolais et les organismes internationaux sur la situation des droits de l'homme à RDC?
Non, mais c'est une prise de conscience qui a moyen d'améliorer la situation des droits humains. Je commencerai par saluer vos milliers d'auditeurs qui suivent la radio de la paix à travers la République, qui sont fidèles et nous savons que ces sujets les intéressent tellement qu'ils sont nombreux à suivre. Ces rapports, pour revenir, c'est au fait loin d'être un soulagement, mais c'est une interpellation pour nous inviter à continuer dans l'action, parce que lorsque nous avons pris le pouvoir, le chef de l'État a insisté en disant qu'il tient beaucoup à l'amélioration des droits de l'homme en République démocratique du Congo, parce que cela les préoccupait au plus haut point, et lui et la communauté nationale comme la communauté internationale. N'oublions pas qu'il est président en exercice de l'Union africaine.
Alors ces rapports, qu'ils soient celui des Nations Unies ou de la Commission des droits humains, ce n'est pas un fait d'hasard. C'est qu'il y a des efforts qui sont menés au sein du gouvernement.
Bien sûr, nous avons dit que le chef de l'État a insisté à marteler en nous disant dès les premiers conseils des ministres qu'il se faisait fort de nous accompagner personnellement en ce qui concerne l'amélioration de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il n'a cessé d'insister et vous avez vu comment nous sommes en train de multiplier d'ardeur pour inspecter les niveaux de respect de ces droits humains dans les milieux carcéraux et autres. Nous venons d'être à l'est de la République pour justement nous rendre compte du niveau de respect et comment il faut renforcer les capacités pour que les droits de l'homme ne soient pas respectés, même en période d'état de siège. Donc pour nous, c'est très encourageant. Ces rapports n'est pas un fait du hasard, c'est la suite de l'activisme que nous mettons dans l'amélioration justement des droits de l'homme à gauche et à droite, que ce soit dans les milieux carcéraux, mais aussi dans les comportements des forces de l'ordre, l'armée, la police, les agents des renseignements et autres, pour que en République démocratique du Congo, on soit réellement, parce qu'il n'y aura pas état de droit sans respect des droits de l'homme. Ah. C'est un long processus, mais nous continuons à y travailler.
Ces efforts consentis, c'était quand même sous votre leadership.
Bien sûr, c'est sous notre leadership, mais soyons humbles. Soyons humbles, nous n'allons pas dire que tout c'est nous, mais c'est la réponse justement à ce que nous faisons depuis que nous sommes à la tête de ce ministère. En tout cas, nous ne dormons pas, nous ne nous enfermons pas dans notre bureau climatisé. Nous sommes sur terrain, nous insistons, nous appelons dès que nous avons une information, en tout cas à notre niveau officiellement, parce qu'il y a certaines fausses informations qui viennent par les réseaux sociaux, des vieilles images qui vous parviennent, des fausses informations. Mais lorsque nous avons le cœur net qu'il y a un cas de violation des droits de l'homme, nous appelons pour résoudre, mais nous nous battons plus pour prévenir, parce que lorsque nous venons en retard, les faits sont déjà consommés, il y a des conséquences, mais lorsque nous pouvons prévenir les cas de violation des droits de l'homme, cela est plus important, et c'est à cela que nous nous attelons dans l'organisation des ateliers de renforcement des capacités en ce qui concerne le droit de l'homme, et cela, nous saluons vraiment l'implication et l'accompagnement du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui en tout cas nous accorde beaucoup de facilités en termes de logistique et d'accompagnement.
Du 26 juillet au 6 août dernier, vous aviez été tour à tour à Goma, à Beni, à Bukavu et même à Bunia. Qu'est-ce que vous avez constaté?
À Goma, à Bunia, à Beni, à Goma encore, à Bukavu, à l'île d'Ijoui, à Bukavu, à Goma, à Beni, à Goma et puis à Kinshasa. Nous avons beaucoup constaté. Je voudrais commencer par Bukavu, qui n'est pas concerné par
l'état
de siège, pour finir par ce qui est
le Grand Nord,
justement, Ituri et Nord Kivu. Au niveau de De Bukavu, nous avons constaté des grands efforts de son Excellence Monsieur le Gouverneur Théo Ngwabidji, que nous saluons, pour améliorer justement la situation des droits humains. Je commence par l'île de Djoui. Nous avons déploré qu'à l'île de Djoui, il n'y a qu'un cachot qui est organisé, il y a un tribunal de paix. Mais ceux qui sont condamnés, il faut attendre beaucoup de temps pour les amener au niveau de Bukavu, au niveau de la prison centrale de Bukavu. Mais dans l'île de Djoui, il n'y a pas une prison comme telle. De sorte que même ceux qui sont condamnés sont confondus dans la situation des détentions préventives, dans les cachots, dans les quelques rares cachots que l'on trouve là-bas. Il est donc important de construire à ce niveau-là, en tout cas, une prison d'une de ces noms. Mais à Bukavu, à proprement parler, il y a plus qu'un intérêt de délocaliser cette prison-là. C'est plus qu'une urgence de délocaliser cette prison, parce que la prison est au milieu. C'est au milieu de... Vous savez, avant, les prisons étaient construites en dehors des villes, mais maintenant, les villes se sont déplacées. La cité est partie rejoindre les différentes prisons, ça nous l'avons constaté à Bukavu, comme à Goma, comme au niveau de Bunia. Mais particulièrement à Bukavu, il est important de délocaliser cette prison-là, parce qu'il y a des maisons en étage qui sont adjacentes à la prison. Vous pouvez jeter même des objets contondants. Vous voyez tout ce qui se passe dans la prison. Ce n'est pas une situation sécuritaire, mais aussi la prison est très vieille. La plupart des prisons que nous avons sont des prisons qui datent d'avant l'indépendance. Certaines construites en 1922, en 1948, en 1953, 1954. Donc il y a une grande nécessité d'améliorer. Si nous avons salué l'action de Monsieur le gouverneur de Sud-Kivu, c'est parce qu'il s'est engagé à délocaliser la prison centrale de Bukavu. Et c'est dans les jours, il y a déjà un projet, mais nous avons dit qu'il est important de construire la nouvelle prison de Bukavu au modèle de Luzumu, parce que présentement, République démocratique du Congo, Luzumu constitue la prison modèle, comme madame la ministre d'État, ministre de la Justice, a eu à nous le dire. Alors, en montant au niveau du Nord Kivu d'abord, au niveau du Nord Kivu, c'est là que nous avons trouvé la situation la plus déplorable du point de vue population carcérale. Il y a une promiscuité hors pair en termes des capacités installées et du nombre de l'effectif des pensionnaires de cette prison. Imaginez une prison construite pour 300 personnes où vous devez multiplier par plus de 8 la population qui se trouve, c'est-à-dire il y a plus de 2480 pensionnaire de cette prison de Munzenze, comme on l'appelle, et la situation est très déplorable. Très déplorable parce qu'il y a plus qu'une nécessité de désengorger cette prison. Et c'est là que nous avons trouvé aussi un cas très déplorable, un cas pour lequel, en tout cas, nous nous battons pour qu'on fasse la lumière. Lors de l'éruption volcanique, il y a des compatriotes, parce que c'est les réflexes de survie. Il y a éruption volcanique, la larve n'épargne rien sur son passage, oui. Tout le monde le sait, avec plus de 800 degrés Celsius, même les barres de fer ne résistent pas. Alors, des prisonniers par réflexe de survie voulaient s'évader, voulaient fuir. Et par excès de zèle, certains gardes ont ouvert le feu. Quelques compatriotes sont décédés. Et pour nous, ce sont des cas d'homicide. On est garde de prison. L'évasion, comme la tentative d'évasion, ce sont des infractions. Encore que les deux sont punis de la même peine.
Donc, mais quand la prison n'est pas sécurisée, c'est la responsabilité de l'État.
Oui, quand ce n'est pas sécurisé, c'est la responsabilité. Mais on n'abat pas les prisonniers. Vous n'avez pas le droit d'abattre un prisonnier. On ne peut abattre quelqu'un que lorsqu'il est condamné ou pendant une période de guerre, que c'est un ennemi qui est armé aussi. Là, quand vous êtes en face d'un ennemi armé, vous pouvez le faire. Mais lorsqu'il n'est pas armé, la République démocratique du Congo, c'est ce que nous devons comprendre, a ratifié plusieurs instruments internationaux. La Convention de Vienne, la Convention universelle des droits de l'homme, qui interdisent certains comportements dont nous aurons à parler pendant cette émission. Parce qu'il faut faire la différence, je sais que nous arriverons à ça, entre l'individu Pouéla et les ministres des droits humains, au fait, les conseillers et les défenseurs de l'image de la République démocratique du Congo à ce qui concerne les droits humains. Donc, voilà pour Goma, excusez-moi, ce que nous avons constaté, mais il y a la vétusté là-bas aussi des bâtiments, il y a aussi un projet de délocalisation de cette prison de Mounzenze. Il y a, nous saluons la régularité depuis un moment de l'approvisionnement de cette prison, mais le nombre est tel que ce qu'on envoie paraît très très insignifiant pour une si grande population carcérale. Et c'est la même situation au niveau de l'Ituri, où nous saluons les gouverneurs militaires qui est là aussi, qui déploie beaucoup d'efforts. Et ce que nous avons apprécié, c'est qu'à notre arrivée, que ce soit à Bunia, à Beni, tout comme à Goma, les gouverneurs militaires étaient très réceptifs. Lorsque nous leur avons dit que l'administration pénitentiaire est une compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, ils étaient surpris. Ah bon, c'est le cas, mais nous n'avions pas su cela, personne ne nous l'avait dit. Heureusement que vous êtes venus, Excellence, Monsieur le Ministre. Et grâce à notre présence, certains Cabénins ou certains qui avaient déjà dépassé, parce que les plus grands problèmes de droits humains qui ici étaient qui se posaient, c'est au niveau du suivi de la régularisation de la détention préventive, parce que pour passer des juridictions civiles vers des juridictions militaires, il fallait transférer les dossiers physiques. Or, cela a connu des retards, et puisque c'était fait, donc maintenant on commence à suivre ces différents dossiers.
Alors, si les rapports des Nations Unies ainsi que les rapports de la Commission nationale de droits de l'homme jettent des fleurs au gouvernement congolais, mais néanmoins, il y a quelques écueils qu'ils ont aussi relevés, notamment la multiplication des menaces qui continuent, y compris sous la forme des procédures judiciaires contre les lanceurs d'alerte, membres du mouvement citoyen, organisations de la société civile et des partis politiques. Comment expliquez-vous cela?
Merci beaucoup. On n'a pas construit Rome en un jour. Vous savez, lorsqu'on sort d'une situation de crise, il faut y aller mollo, mollo. Nous n'allons pas en vouloir à un enfant qui se met debout, qui se met debout et qui tombe. Non, mais pourquoi tu es tombé? Non, mais c'est un processus. Mais aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une proposition de loi qui est en gestation au niveau de l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Cela viendra résoudre tous ces problèmes. C'est un effort qu'avait commencé déjà le ministre Luzolo Bambi, le professeur Luzolo Bambi que nous saluons et que nous sommes en train de poursuivre. Nous encourageons justement, nous menons un lobby pour que cette proposition de loi qui a été endossée par un ancien collègue à moi, qui est très dynamique, que nous saluons également, que cette proposition de loi soit programmée et que soit votée pour que la République démocratique du Congo soit bien cotée. Je voudrais dire à l'intention de tous les auditeurs qui nous suivent que des différentes audiences que nous avons accordées aux personnalités et autres diplomates chez nous, ils nous ont dit que, Excellence, Monsieur le Ministre, sachez que le ministère des droits humains, pour petit qu'il soit aux yeux des autres, c'est l'un des ministères les plus importants qui aideront la République démocratique du Congo a trouvé sa vraie place dans le concert des nations. C'est grâce au ministère des droits humains, lorsqu'il est bien géré, lorsque vous vous battez, Excellence Monsieur le Ministre, pour réduire les cas de violation des droits de l'homme, que vous aurez accès à la coopération bilatérale comme multilatérale. Alors vous devez être très sévère, vous devez jouer pleinement votre rôle. Et le chef de l'État a eu à nous le dire également avant notre départ pour l'Est de la République.
081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience. Il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen qui reçoit pour vous Fabrice Puella, qui est avec nous, ministre des Droits Humains. Avec lui, nous partageons ce moment pour balayer, en tout cas, l'ensemble des problèmes que traverse la RDC avec cette question épineuse des droits de l'homme. Alors, vous, vous êtes à Lubumbashi. Jérémy, vous nous avez rejoint. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur JR. Bonjour également à son excellence, monsieur le ministre. Moi, je me dis, le gouvernement étant le numéro un dans la définition de la politique générale du pays, doit faire une autocritique en évaluant, bien sûr, les observations faites par les organismes internationaux, à l'instar, bien évidemment, de Nations Unies au sujet, bien sûr, de violations graves dont étaient victimes plusieurs forces vives ainsi que d'autres mouvements du pays pour tirer bien sûr les conséquences et mettre surtout sur pied une nouvelle donne. Ça veut dire que cette nouvelle donne doit normalement ouvrir une brèche pour qu'on puisse mettre un atelier définitivement qui doit, n'est-ce pas, régorger toutes les personnes directement ou indirectement favorisant, n'est-ce pas, de ces violations-là pour qu'ils soient là pour voir. Parce que je me dis, lorsque il y a une bonne nouvelle qui tombe, c'est le régime qui gagne, c'est les chefs de l'État qui gagnent, c'est tout le pays entier qui gagne. Ça veut dire, il y va de l'intérêt de tout un chacun pour qu'on se bat âprement pour pouvoir... Moi, je ne préfère, bien sûr, la diminution est un geste qu'il faut saluer, bien évidemment. Ce sont des actions favorisées, donc, qu'il faut encourager, mais nous voudrions que ça passe à l'éradication. Parce que lorsque un élève ou un étudiant a diminué les échecs, bon, il peut que se réjouir, mais ce qui est plus important, c'est pouvoir éliminer les échecs pour être en passe d'une voie favorable. Alors, nous voudrions que maintenant, nous interpellons, n'est-ce pas, son excellence, monsieur le ministre, qui est avec vous, que nous saluons d'ailleurs en passant, et nous disons, voilà, courage à vous, mais nous voudrions que maintenant, que ce soit dans les registres, par exemple, judiciaires, qu'on puisse, lorsqu'il s'agit, on amorce une procédure judiciaire, et cette procédure, au préalablement, ne doit pas être dirigée de manière donc sélective, mais elle doit rester, garder son caractère original, elle doit rester là, une justice distributive et non sélective. Là, nous en interpellerons à son sens le ministre. Et aussi, un autre point, lorsque les militaires commettent des bavures, ou les policiers surtout à gauche, à droite, tout cela, il faut que ces gens-là soient interpellés pour dire, lorsqu'il y a une goutte qui tombe, il peut déborder carrément le vase et tout peut gâcher et c'est le régime qui sera mal coté parce qu'on dira, pendant ce régime, il y a eu autant d'exactions, il y a eu autant de violations. Donc, tout doit partir par ce point-là. On organise un atelier pour, n'est-ce pas, inculquer
voilà.
Des
donc,
notions.
Si je comprends bien pour vous, il s'agit là d'un cadre de concertation permanent qui prendra en compte les défenseurs des droits de l'homme en face de décideurs, c'est-à-dire des hommes qui gèrent la Respublica, pour discuter sur cette question à chaque instant, peut-être semestriellement ou trimestriellement, question d'harmoniser ces rapports. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, Mathieu, vous êtes à Canara, je crois, Mathieu.
Oui, je suis là. Bonjour, monsieur les journalistes.
Voilà, Mathieu, vous êtes à Béni. Voilà, vous êtes à Béni. Vous avez la parole. Quelle est votre réaction? Parce que le ministre venait de passer il y a quelques temps à Béni, d'ailleurs, pour constater la situation des droits de l'homme dans cette partie du pays.
Oui, en écoutant le ministre, il est en train de relever les défis. Il y en a assez. Et le ministre, au moins, il a reconnu qu'il y a vraiment des violations grave des droits de l'homme, notamment lorsqu'il faisait allusion à la promiscuité de prison qu'on a à Beni, à Goma, à Bukavu, à Ituri. Vraiment, il y a beaucoup de choses que le gouvernement encore doit toujours travailler. Néanmoins, face à ce rapport, moi, je comptais encourager. Donc, nous encourageons le rapport parce que là où la République est d'arriver, les 14% que les Nations Unies viennent de reconnaître à notre pays dans le respect des violations, donc dans le respect des violations des droits de l'homme, ce n'est pas du tout un cadeau, mais plutôt comme le ministre l'a indiqué, ce
sont des efforts qui ont été consentis,
qui ont été réalisés par le gouvernement. c'est là, c'est voir dans le sens que c'est politique de prévention. Parce que s'il n'y a pas cette politique-là de prévention, on aurait été dans des 50%, mais au moins, on a réduit quand même qu'il y a une politique. Mmh. Et cette politique a fait à ce que les Nations Unies ne puissent pas vraiment donner un chiffre en termes de pourcentage qui est un peu élevé. Et cela, on a essayé d'apprécier à une baisse des violations des libertés fondamentales dans ce pays. Et moi, je pense que pour arriver à ce niveau, on a essayé de confronter les rapports de la RDC avec les rapports des ONG qui sont toujours enregistrés. Et on a trouvé réellement qu'il y a une volonté néfaste de la République, donc des autorités à place. Et c'est comme ça qu'on est en train de les appeler les gouvernements de Wario. Que vraiment, on veut mettre à hors d'état de nuire. Donc, on veut mettre très loin les violations dans notre État pour continuer à recouvrer cette bonne image.
Merci beaucoup.
Sur l'espace international. Alors, pour citer, je voulais dire aussi que il faut se demander si ces violations des droits de l'homme sont causées par qui. C'est toujours l'État, parce que lorsque l'État n'arrive pas à sécuriser la population, on est en train de donner le cas des prisonniers. Le prisonnier, bien sûr, c'est parmi les violations
des droits de l'homme.
Droits de l'homme, des droits humains. Lorsque le prisonnier n'arrive pas à trouver
à manger,
les droits comme l'alimentation, il y a les droits comme les soins médicaux, tout ça, ça relève et ça incombe à l'État. C'est paradoxalement qu'on peut...
Voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup qui attendent de répondre à cette émission. Merci beaucoup, Mathieu. On va prendre Amos. Amos, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, JL.
Vous avez la parole, Amos.
Merci, je tiens à saluer d'abord les nombreux auditeurs, y compris l'invité, l'excellence, monsieur le ministre des droits humains.
Vous avez la parole, soyez précis et concis.
Merci bien, JL. En fait, moi, à mon avis, je pense que parler du respect des droits de l'homme au Congo aujourd'hui, ce n'est pas vraiment facile. Pourquoi? Parce que nous savons d'où nous venons. Et avec le régime sortant, qui a été caractérisé par beaucoup de violations des droits de l'homme, nous nous sommes battus pour qu'on ait le régime en place, et on a pensé qu'avec l'avènement du régime en place, il y aura quand même des avancées. Malheureusement, on constate qu'apparemment l'homme politique congolais serait le même. Au nom du pouvoir, tous les acteurs politiques congolais sont les mêmes. Pourquoi je le dis? Mes prédécesseurs ont y a relevé beaucoup de cas. D'abord, on va parler de respect des droits de l'homme dans un pays où il y a une justice manipulée. Au nom du pouvoir, nos politiques manipulent la justice. Et quand on manipule la justice, ils s'en prennent déjà à tout le monde qui a un deuxième son de cloche par rapport à leur gouvernance. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Mais parce que vous êtes des mouvements citoyens. Est-ce que vous avez apprécié les rapports des Nations Unies qui parlent qui regrettent au fait la multiplication des menaces, y compris sous la forme de procédures judiciaires contre les lanceurs d'alerte et les membres, certains membres des mouvements citoyens?
Oui, nous sommes en train d'être victimes des intimidations des institutions aujourd'hui. Il suffit de simplement qu'être critique, ce qui se fait actuellement au pays, que ce soit dans nos provinces, nous faisons l'objet des menaces des institutions. Et c'est ce qui est grave. Les mêmes institutions, on voit l'armée, on voit la police, on voit l'ANR, ce sont ces gens-là qui sont manipulés par les politiques pour intimider, pour...
Mais Amos, je crois que les choses avancent quand même. Il y a des avancées très significatives, parce qu'autrefois, vous connaissez l'homme fort de l'ANR, mais aujourd'hui, je crois que si vous posez la question même au commun des mortels, personne ne connaît son nom.
Vous dites hier, je n'ai pas bien fait.
J'ai dit autrefois, vous connaissiez l'homme fort de l'ANR. Mais aujourd'hui, si on vous posait la même question, qui est l'homme fort de l'ANR?
Je ne comprends pas votre question,
J'ai dit, est-ce que connaissez-vous le patron de l'ANR aujourd'hui?
Oui, le patron de l'AMR, oui, il vient de changer hier. Parce que les mêmes conditions qu'on a eues à dénoncer hier pour ce qui est de l'AMR et ses services.
Merci beaucoup, Amos. Merci beaucoup, Amos. On va prendre Marie-Paul. Marie-Paul, vous êtes avec nous à Kisangani?
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Voilà. Vous gardez la ligne et on prend d'abord Sylvain. Sylvain qui est à Bounia. Sylvain, vous êtes avec nous?
Bonjour.
Quel est votre avis par rapport au rapport des Nations Unies ainsi que le dernier rapport de la Commission nationale des droits humains?
Bon, il faut dire d'abord généralement que nous sommes dans des sociétés dont les véritables droits humains sont pas totalement respectés. Ça, il faut d'abord le signaler. Puisque quand on parle de droits humains, il y en a beaucoup, hein. Le droit à la nourriture, le droit à un habitat décent, le droit à la sécurité, le droit à la scolarisation de nos enfants, le droit à la maternité. Mmh. Et quand vous regardez tous ces éléments dans un tableau objectif, vous vous rendez compte que le travail est encore grand. Et ça, c'est le cas de notre pays, d'une manière générale, à travers toutes les 26 provinces. Le plus souvent, quand les gens parlent de droits humains, le plus souvent, on regarde des tracasseries. Oui, sur ce plan aussi, il faut dire que notre pays est en train de faire des efforts considérables depuis un certain moment. Mais cependant, vous avez bien dit que je suis à Bounia, en Ituri. Et lorsque nous observons la situation dans notre province de l'Ituri, et notre province voisine, le Nord Kivu, vous savez que nous sommes sous l'état de siège. Au moment où vous m'appelez ce matin, j'étais en train de recevoir des citoyens qui passent dans notre office pour nous faire des dépositions par rapport à la torture. Et là, vous avez des images. Pendant l'état de siège, des civils qui étaient devant les juridictions militaires, qui ont eu toute espèce de menaces. Et ça, je l'avais déjà dénoncé au plus haut niveau. Puisque lorsque le président de la République a soumis les deux provinces, celles du Nord Kivu et de l'Ituri, sous l'état de siège, et nous sommes gouvernés par des militaires, et malheureusement, nous avons vu beaucoup de plaintes, des gens qui sont devant la justice menacés, torturés psychologiquement, et même des opérations monnayées, ce qui ne permettent pas que dans les deux provinces, je cite, le Nord Kivu et l'Ituri, nous puissions aujourd'hui dire que la chose avance. Et comme vous le savez...
Oui, mais ces rapports publiés par les Nations Unies ne prend en compte que les premiers semestres, la période du premier semestre. Donc on peut dire l'état de siège est venu au mois de juin, si mes calculs sont bons.
Vous pouvez avoir raison. Mais du moment où nous échangeons autour des questions des droits humains, vous savez que la Radio Capi, nous avons beaucoup de respect vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Puisque ça nous permet d'exprimer certaines inquiétudes.
Tout à fait.
Si nous parlons du passé, il n'y a pas de souci, on peut avancer sur ce point. Mais moi, je vous dis, puisque nous sommes sur la radio Capi, et c'est la radio écoutée par toutes les autorités et du pays et du monde, et même de l'ONU elle-même, il faut que nous puissions retracer ce qui existe pour que désormais le travail continue. Et moi, je voudrais ici, dans mon intervention, rappeler que dans ces deux provinces, il faut un suivi, un regard non complaisant du gouvernement congolais sur la pratique de la justice contre les citoyens et aussi au niveau de l'ONU. La RDC fait partie de l'ONU. Il faut que rapidement l'ONU, même l'Union africaine, puisse accompagner la RDC afin que ces deux provinces rentrent dans la gestion des
citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé de Bounia 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous revenons dans ce studio de Parole aux auditeurs qui reçoit pour vous Fabrice Puella, ministre des droits humains. Avec lui, nous scrutons de près le rapport publié par les Nations Unies ainsi que celui publié par la Commission nationale des droits humains. Mais là, nous venons d'écouter une longue série, la première en tout cas, avec les auditeurs. Monsieur le ministre, quelle est d'abord votre réaction après avoir écouté les uns et les autres, chacun dans son coin qui a soutenu d'ailleurs vos propos et qui ont aussi relevé quelques écueils qui restent encore?
Je salue notre compatriote Jérémy depuis le Katanga. Je salue M. Mathieu Abeni, M. Amos, il n'a pas dit d'où il appelait, les tout derniers M. J.R. Merci beaucoup pour les compliments à gauche, à droite. Ce qui est important, il est un fait que la violation de droits de l'homme ait été un peu la règle, mais il est une autre que présentement, il y a une volonté manifeste. En tout cas, je l'ai dit sans crainte d'être contredit, que dans les rares discours de l'ancien chef de l'État, à peine on entendait, ou je ne me souviens pas avoir entendu un accent sur les droits humains, sur le respect des droits humains. Mais présentement, lorsque vous entendez le président Félix-Antoine Tshisekedi, il ne cesse de revenir sur le respect des droits humains. Il parle de la justice transitionnelle. C'est dans le cadre des droits humains, justement, pour régler... les problèmes des crimes graves commis en République démocratique du Congo en ce qui concerne les droits humains. C'est déjà une avancée. C'est déjà, et lorsque les chefs de l'État insistent, Excellence Monsieur le Ministre, vous allez à l'est de la République insister auprès de ces gouverneurs militaires qu'ils ont une obligation de résultats et non une obligation de moyens. Ça veut dire qu'il y a un engagement sérieux de sa part pour voir la situation s'améliorer. Les rapports qui ont été publiés, c'est tout à l'avantage des chefs de l'État et du gouvernement que nous puissions. Mais ce qui est important, nous, c'est que nous devons embrayer sur cette avancée pour que nous montions et qu'on refuse tous, surtout les agents de l'ordre, pour qu'on tire encore les pays vers le bas, que nous soyons indexés par la communauté internationale comme étant une zone rouge en ce qui concerne les droits humains. Il faut qu'on sorte de ce tiers qui fait de nous des grands violateurs de droits humains. Il faut qu'on avance, qu'il fasse. C'est vrai, il est important que Monsieur Mathieu le sache, que les droits humains ont toujours été, les respects des droits humains ont toujours été un idéal. Dans aucun pays où à 100% les droits de l'homme sont, même en France qui est au fait un peu la capitale des droits et libertés des citoyens, même aux États-Unis, nous avons suivi avec les derniers scandales avec
la George, violation de, oui, du Capitole.
Oui, voilà, il y a des violations comme ça, mais l'idéal c'est de réduire le plus possible les cas de violation des droits de l'homme.
Voilà, alors vous aviez auprès de nos confrères de RFI fustiger les transferments des Kuluna à Kanyamakassese. Est-ce une façon d'encourager ou de cautionner ces jeunes délinquants à continuer à s'aimer de la terreur dans la ville de Kinshasa?
Merci beaucoup. La question est tellement d'actualité et tellement pertinente qu'il est important de l'évoquer. Je voudrais que nos compatriotes nous suivent très bien. Le phénomène Kuluna est très nocif et il faut tout faire, tout pour les combattre, pour les éradiquer. C'est vrai, c'est un problème qu'on a entretenu pendant les régimes passés, on l'a vu pousser, il a pris corps et est devenu un phénomène très dangereux. Nous devons les combattre à tout prix. Seulement, il faut de la méthode. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Auquel cas, nous devrons nous débarrasser même de nos habits, monter dans les arbres, ne plus transformer notre nourriture, qu'on se nourrisse seulement de fruits et de gibier, qu'on brûlerait juste sans ingrédients. Mais nous sommes en plein 21e siècle. La République démocratique du Congo a ratifié plusieurs instruments internationaux. Et même dans la Constitution, il est clairement dit qu'en dehors de la vie qui est sacrée, nul ne peut être soumis à la torture. Nul n'a le monopole ni ne peut se rendre justice. C'est les cours et tribunaux qui disent le droit, qui rendent justice. Alors, dans l'arsenal juridique congolais, à ce jour, je mets à défi quiconque me dirait qu'il y a une infraction qu'on appelle Kuluna. Il n'y en a pas. Dans ce qu'on appelle l'état de droit, il y a des principes sacrés, des principes sacro-saints. Parmi ces principes, les premiers d'ailleurs, et c'est parmi les noyaux durs des droits humains, c'est le principe de la légalité des délits et des peines. En latin, on l'a dit, nullum crimen, nulla poena, c'est-à-dire, on ne peut avoir d'infraction ou de peine qui n'aient été prévues au préalable dans la loi. Et en dehors de ça, il y a encore le principe de la présomption d'innocence. Donc, lorsque on vous appréhende, on vous prend. Ce n'est pas que directement vous devenez criminel. Non, il faut qu'on vous entende. Alors, puisque Kuluna, ce n'est pas une infraction. Les infractions sont connues. Causes et blessures volontaires, le vol, les recels, l'homicide. Alors, lorsque on arrête un Kuluna, ou entre guillemets quelqu'un qu'on appelle Kuluna, dans le feu de l'action, parce que généralement c'est le cas, il a blessé quelqu'un avec sa machette ou qu'il a volé avec menace, il faut, quand on l'attrape, il faut les juger, même s'ils sont nombreux, il faut les juger même en flagrance. On les juge, on les condamne. C'est lorsqu'on les condamne qu'on est fondé à les amener en prison. À Osio, ou à Boulouo, ou à Angenga pour les militaires, dans le cas d'espèce, à les amener à Kanyamakasese. Encore que, lorsqu'on les condamne, il faut être précis. C'est à des travaux forcés ou à quoi? Parce que les travaux forcés, la loi portant mesure d'application de cette peine n'est pas encore votée. Alors, mais les prendre tel qu'on les fait, on dit, parce qu'il y a aussi de la... Des bavures qui arrivent. Je suis en train d'hésiter pour en parler. Je veux vous donner une illustration. Lors de l'opération Likofi, on est arrivé dans une commune de la place, à Bandal. Il y avait un jeune monsieur qui était étudiant, qui avait juste des tatous dans son corps. Et lorsque l'expédition ou les cortèges qui arrêtaient de Kuluna étaient en train de passer, ils disaient, non, Kuluna za Kuluna. Simplement parce qu'on n'entendait pas avec des voisins. On a arrêté ces messieurs. On n'a plus jamais eu de ces nouvelles. La famille a fait un deuil. Et vous savez, ces messieurs, il étudiait, ces jeunes messieurs étudiaient, il était étudiant. Et c'est le fils de quelqu'un qui a rendu des grands, d'énormes services.
De leur service.
À cette réplique, c'est le fils du feu général Mbouza Mabé. Junior a disparu tout simplement parce qu'il avait des tatouages. Donc, vous voyez des cas, c'est un cas isolé.
Mais monsieur le ministre.
Oui.
Les transferments de ces Kuluna à Kanyamakasese. C'est une action gouvernementale. N'est-ce pas là que vous êtes en train de vous désolidariser de ce gouvernement?
Excusez-moi, non. Quand vous parlez de l'action gouvernementale, ça veut dire que c'est au niveau du gouvernement un point prévu à l'ordre du jour que nous débattons. Mais c'était dans un rapport, par exemple, des membres du gouvernement qui a eu transfert. Mais déjà, en tant que ministre des droits humains...
Nous sommes à la sixième vague.
Un instant, à la sixième vague. Déjà lors de... La troisième vague, je pense que c'était lors du troisième conseil des ministres, lors du rapport du ministre de l'Intérieur, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Que non, s'il vous plaît. Le chef de l'État a insisté sur le respect des droits de l'homme. Les Kuluna, les prisonniers. Les Kuluna, c'est un phénomène négatif. Il ne faut pas que les gens disent dans la rue que non, Puella défend les Kuluna, Puella a mis aux Kuluna. Non, il m'a été confié le ministère des droits de l'homme. Faire le contraire serait... ferait que je sois incompétent, que je ne sois pas dit dans quel cas il faudrait qu'on me mette à la porte, qu'on puisse me révoquer du gouvernement. Parce que je serais incompétent si je ferme les yeux, si je ne dis pas que cette procédure viole les droits de l'homme. On arrête des soi-disant Kuluna pour une infraction. Je dis soi-disant parce que ce n'est pas une infraction quand on dit quelqu'un est Kuluna.
Quelle est l'approche quand même
justement,
qu'est-ce qu'il aurait fallu
l'approche préféré. Monsieur le professeur Lozo Lobambi avait commencé en son temps. On arrête un Kuluna dans le feu de l'action, on organise un procès en flagrance. On les juge lorsqu'il est condamné, ou parce que généralement ils sont nombreux, lorsqu'ils sont condamnés, c'est alors qu'on sera fondé à les amener en prison. Encore que, quand on les arrête, on les juge, il faut les traiter de manière inhumaine. Lorsqu'on les prend torse nu, assis à même le sol, en train de les interviewer, non, ils ont droit à la dignité.
Merci beaucoup, monsieur Puella.
Donc, il faut les juger.
Nous allons réécouter les auditeurs qui nous ont également rejoints. Marie-Paul, vous êtes avec nous.
Oui, je suis avec vous. Bonjour à monsieur le ministre, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Alors, vous avez suivi les prédécesseurs. S'il y a un élément nouveau que vous voulez ajouter, soyez précis et concis. Quelle est votre réaction?
Oui, monsieur le journaliste, il faut d'abord contextualiser les contextes de ces rapports. D'abord, il faut dire que la RDC est à la fois pays signateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. et c'est aussi un membre des Nations Unies et aussi membre de l'Union africaine. Et toutes ces organisations, aussi bien non gouvernementales qu'internationales, insistent à mettre l'accent sur l'observance des droits de l'homme. Et c'est dans ce contexte-là que les Nations Unies, après avoir fourni les premiers rapports de mapping que nous connaissons, qui faisaient état justement de violations systématiques des droits de l'homme en RDC, et fort des éléments présent et ces rapports viennent d'être encore produits par ces Nations Unies pour qui fait état de la baisse quand même de cette violation systématique des droits de l'homme. Alors, le présent rapport qui vient de fournir les Nations Unies, monsieur le journaliste, c'est un signe précurseur que les autorités actuelles essaient d'observer un peu les droits de l'homme ou essayent de sacrementer par rapport aux dispositions que je dis dans mon mot introduit. Alors, ceci revient à ces gouvernants, tout simplement, d'accélérer un peu ces mesures pour que l'homme soit dignement respecté dans notre pays. Vous savez, les pays, et parmi les conditions d'existence d'un État, il y a parmi ces éléments la population. Et dans la population, c'est là où on trouve l'homme. Et l'homme fait partie des éléments qui constituent un État. Et même si celui-là qui forme l'État n'est pas respecté, c'est aussi un aspect contraire un peu par rapport à la vocation d'un État, à la vocation d'une nation. Donc, la RDC a tout intérêt de respecter les droits de l'homme. D'ailleurs, monsieur le ministre l'a rappelé, si nous allons dans notre constitution, on dit la vie est sacrée. La sacralité de la vie doit être observée. On ne peut pas commencer à traiter les gens comme des animaux. Et si nous le faisons, c'est vraiment des reculs par rapport à la
merci
démocratie.
Beaucoup.
C'est vraiment fait un coup par rapport à toutes les dispositions dont nous sommes.
Merci beaucoup Marie-Paul. Merci beaucoup Marie-Paul. Alors Simon Tsiloulou, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour à vous et bonjour à son excellence, à l'honorable Kouela. Et puis bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à travers le monde entier à votre radio internationale. En fait, la problématique de la violation des droits humains, nous devons d'abord savoir que les droits humains sont inaliénables. Donc on ne peut avancer aucune raison pour soutenir sa violation, quelle qu'en soit, même si dans le monde et tout ça qu'on sort, parce que c'est lié à la vie. Pour réduire, tel que l'a dit son Excellence, je pense que la République démocratique du Congo devrait plus se focaliser ou mettre des fonds dans la prévention. Dans notre pays, c'est la plus grande faiblesse de la République. On ne met pas beaucoup de moyens dans la prévention. Et on veut toujours résoudre les problèmes. On met des moyens dans la recherche de solutions que dans la prévention. Vous verrez que les pays qui ont évolué dans le monde entier, dans beaucoup de domaines, ils mettent beaucoup d'argent dans la prévention. Et la prévention, elle est transversale. Parce que vous verrez, par exemple, aujourd'hui on parle des Kuluna. Qu'est-ce qui fait des Kuluna ce qu'ils sont? La santé publique devait faire son travail, parce qu'on appelle ça santé publique. Les boissons là qui se vendent, en tout cas publiquement comme ça.
Donc là c'est une question transversale. Mais alors, vous avez salué ces rapports, qu'est-ce que vous proposez pour les capitaliser?
Pour capitaliser tout ça, il fallait que la transversalité dans les ministères ou dans les responsabilités qu'il faudra faire pour
soit prise en compte.
La République démocratique du Congo puisse se faire valoir plus dans la prévention, faire en sorte que ceci n'arrive pas, au lieu de continuer à rester, parce que vous verrez que c'est dans tous les domaines, même dans l'enseignement, vous voyez un papa engagé qu'on a fait travailler à
pendant 50 ans.
12 ans de service. Ça fait
à qui on remet $2,500 pour l'arrêter.
C'est déjà une violation grave.
Merci beaucoup Simon Tsiloulou d'avoir appelé. Alors on va prendre Christian avant de retrouver notre invité. Christian, Politassi, vous êtes à Kinshasa.
Bonjour hier et bonjour à l'invité.
Quel est votre avis, Christian?
Oui, moi je crois que dès la première observance de ces tableaux peints par les Nations Unies, on peut facilement dire que les symptômes que présente la nation congolaise, c'est beaucoup plus la résultante du non-respect de certains textes légaux, mais aussi de l'éthique et de la déontologie notamment dans le chef de magistrat, des avocats, mais aussi des agents publics. Parce qu'en fait, c'est là qu'ils font recours à ces pratiques non démocratiques, ce sont justement cette catégorie de personnes. Ils font influence ou ils utilisent leur rang social, leur position, pour justement essayer un tout petit peu d'étouffer l'état des droits et ses corollaires. Et donc, pour chercher un tout petit peu à capitaliser ces rapports ou encore à endiguer à ces fléaux. Oui, oui.
Pour capitaliser ces efforts consentis par le gouvernement afin de diminuer le nombre de violations des droits de l'homme. Comment les capitaliser?
Oui, moi je crois qu'il faudrait dès aujourd'hui commencer par dénoncer nommément ces gens-là. Si c'est Fabrice Puella qui s'est salué au passage, il faut dire que c'est le ministre des droits humains, Fabrice Puella, qui fait usage de l'influence. Et donc, si ces gens-là sont cités, les chefs auront l'amabilité de les sanctionner correctement et le gouvernement aussi. Mais si on ne cite pas nommément, on parle tout simplement que voilà, il y a quelques tracasseries, il y a quelques menaces, sans pour autant citer les gens, il serait difficile pour établir les responsabilités.
Merci
et
beaucoup.
Ça, même le ministre qui est là au studio ne va pas me contredire. Mais sinon, moi, je demanderai au ministre, par rapport à sa déclaration sur l'envoi des colons là, de proposer une réqualification maintenant de la méthode. Parce
fait.
Que comme ces colons sont aujourd'hui utiles à la
il
nation,
faut une réqualification.
Ils nous produisent, ils nous produisent de quoi manger, alors il faut maintenant les réqualifier, ne pas dire que ce sont, il faut dire que ce sont des jeunes sans occupation, alors l'État les récupère pour les occuper afin de mettre dans le chef de ces derniers le métier et que ces derniers deviennent utiles à la société.
Merci beaucoup,
parce
Christian.
Parce que les mots Kourouna pour lui, ne sonnent pas bien, alors il faut comment, les réqualifier. Voilà
merci,
ce que je veux
merci
dire.
Beaucoup, Christian. Alors, monsieur le ministre, avant on va retrouver François. Comment réagissez-vous par rapport à toutes ces interventions?
Je salue le compatriote Marie-Paul, mon frère et ami Simon Tiloulou de Pouchemoua-Matadi, monsieur Christian, qui est intervenu tout dernièrement, qui est intervenu le tout dernier. Il est important d'être bien coté. C'est une chose, mais ce qui est plus important encore, c'est de persévérer. La vie doit être en s'améliorant. Pas nous complaire, non, on a diminué de 14% et nous allons dormir sous nos lauriers alors que la situation risque de s'empirer. Nous devons fournir des efforts. C'est là que nous saluons le point de vue de Marie-Paul et même de M. Thiel. On doit mettre l'accent sur la prévention. C'est très important. Mon peuple périt faute de connaissances. Il y a certains policiers qui ne savent pas que flageller quelqu'un qui est arrêté, c'est une infraction, c'est la torture. Or, la torture est interdite. Nul, c'est dit dans la Constitution et dans la plupart des instruments internationaux que nous avons ratifiés, nul ne peut être soumis à la torture. Nous avons salué également les points de vue de M. Christian qui nous dit qu'il faut réqualifier. Je dois revenir sur le fait que Kuluna, c'est un phénomène nocif que moi je condamne en tant que individu, tout comme en tant que ministre des droits humains, parce que ces jeunes désœuvrés qui s'adonnent ce qu'on peut appeler le banditisme urbain violent les droits humains. Mais lorsque on les arrête, il faut les juger, il faut qu'ils passent devant les magistrats pour qu'ils soient jugés. Lorsqu'ils sont condamnés, c'est alors qu'on sera fondé de les envoyer à Kanyamakassese pour qu'ils soient utiles. Ceux qui sont condamnés aussi, qui sont à Luzumu, mais ils produisent, ils font de la menuiserie, ils apprennent la maçonnerie, ils font des champs. Ils sont aussi soumis à des travaux, pas forcément des travaux forcés. Ils apprennent des métiers. Alors, pour les cas de nos jeunes, pour que la société ne les perde pas, soit on les prend de manière volontaire, il faut qu'ils acceptent lorsqu'ils n'ont pas commis d'infraction. Mais lorsqu'ils commettent des infractions, il faut les juger sur base des infractions par eux commises. Et non, de force, on les déshabille, on les menotte, on les flagelle. Ça, c'est de la torture. Or, nous avons ratifié les instruments internationaux interdisant la torture.
Alors pour être clair, on sait que les rapports est en faveur, est favorable pour la RDC, mais comment capitaliser de manière générale ces efforts?
Oui, pour capitaliser les efforts allant dans
dans le sens de diminution,
voilà,
et la baisse d'ailleurs du nombre de violations.
Nous encourageons la mise en place d'un cadre de concertation permanent et nous appuyons les efforts pour engager une mise en place d'une politique de prévention. C'est ce qui va aider la République démocratique du Congo à continuer à réduire les cas de violation des droits de l'homme. On doit savoir que quelqu'un qui donne une information ou qui alerte qu'il y a péril en ce qui concerne les droits de l'homme, ce n'est pas un ennemi de la République. Ce n'est pas quelqu'un qui commet une infraction. L'activisme des droits de l'homme, ce n'est pas une infraction. Bien au contraire, nous, en tant que pouvoir, nous devons profiter de cela. Lorsqu'il y a des demandes pour l'organisation, encore que nous sommes sous période Covid, mais le moment venu, après la pandémie, il y aura des gens qui vont, pour une raison ou une autre, chercher à manifester. Lorsqu'on encadre, moi je viens de l'opposition, où j'ai milité pendant longtemps, lorsque nous organisions nos marches, et qu'il n'y a pas eu répression, pour nous, nous considérions que c'était un échec. Je l'ai dit aujourd'hui. Alors, mais pour par moment mettre devant un fait accompli les organisateurs de ces revendications, il faut les encadrer. Nous allons jusqu'au bout. Ok, déposez votre mémo. Nous avons compris. Nous allons les résoudre. Et là, la République ne va pas cesser d'exister. Mais au moins, nous aurons fait preuve de grandeur en écoutant un autre son de cloche. La République avance comme ça.
Est-ce que vous vous sentez à l'aise à ce poste-là, en ce moment, en cette période des grands enjeux?
Nous nous sentons à l'aise, nous sommes interpellés. C'est une grande responsabilité. Nous avons été nous-mêmes plusieurs fois victimes de violations des droits de l'homme. Nous avons été brimés, nous avons inhalé les gaz
lacrymogènes.
Nous n'avons pas
droit. Il faut donner les meilleurs à la population.
Justement, il faut que nous...
Changer les paradigmes.
Oui, pour changer. Et heureusement que le chef de l'État, avec qui nous avons le chef de l'État actuel...
Qui a été à l'opposition.
Oui, qui était à l'opposition, avec qui nous avons pris part à plusieurs manifestations.
Mais des menaces, y compris sous la forme des procédures judiciaires, continuez encore à vous prendre, vous coller à la peau.
Oui, mais il est important que tous les acteurs étatiques aident le chef de l'État. C'est lui qui sera comptable devant la population. Il n'est pas là. Présentement, pendant que nous parlons, il n'est pas à Beni, il n'est pas à Bounia, il ne sait pas ce qui se passe. Mais ceux qui le représentent là-bas doivent tout faire pour qu'il sache qu'il y a un principe sacro-saint sous... Salus populi suprema lex est, c'est-à-dire les saluts suprêmes, les biens du peuple, c'est la loi suprême. En tout état de cause, on doit toujours rechercher l'intérêt supérieur du peuple. Et ça, c'est très important.
Fabrice Puella, ministre des Droits humains, je ne sais pas, avant de nous quitter, quels sont les derniers mots que vous auriez voulu passer, que vous n'avez pas pu les faire en 57 minutes?
C'est les mots que nous voulons passer, c'est que les Congolais doivent savoir que nous sommes en plein 21e siècle, nous évoluons. Les pays, la République démocratique du Congo, par les chefs de l'État et le gouvernement, déploie beaucoup d'efforts pour la diminution sensible. Et c'est là que nous appelons à la prise de conscience des militaires, des policiers, pour réduire les cas, pour éviter les cas de violation des droits de l'homme, parce que l'image du pays en dépend. La survie, l'économie, les échanges, la coopération internationale en dépend. À ce qui concerne notre pays, nous avons été bien cotés. Poursuivons, embrayons sur cette voie-là, ne tirons pas le pays vers le bas. Monsieur le ministre Puella n'encourage pas le Kuluna, mais il veut qu'on puisse améliorer la méthode. Le phénomène Kuluna est mauvais sur toute la ligne, mais lorsqu'on arrête des Kuluna, il faut les juger. Oui, il faut les juger avant de les envoyer au niveau de Kanyama KCC. Vous remercie.
Monsieur le ministre, merci de nous avoir honoré de votre présence dans ces studios. Et c'est par ici que nous mettons un terme. À très bientôt.
À très bientôt, monsieur.
Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bon suite des programmes sur la fréquence de la paix.